BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
11h passé de 2 minutes, on file à la bourse pour prendre la température de cette dernière séance de la semaine. Séance encore un petit peu particulière puisque sans les investisseurs américains qui vont faire un petit passage de politesse cet après-midi, Antoine Larrigaudry, qu'est-ce qu'on se raconte sur les tables ?
Au moins, on a trouvé une direction, hein, parce que c'était pas le cas depuis le début de la séance. On était vraiment sur des points d'équilibre. Puis là, on trouve une direction. Alors, à la baisse, certes, mais au moins, on va dans un sens. Moins 0,25% et on descend légèrement sous les 6700 points, le seuil qu'on avait réussi à accrocher hier. Bon, rien de grave, hein, 6990. Ça reste des mouvements très, très, très réduits avec des volumes très bas aussi. Moins 0,26% pour l'Eurostock 50, quasiment la même chose. Pour le DAX à Francfort, moins 0,28%. Vous l'avez dit, oui, on va faire un passage de politesse chez les traders américains cet après-midi, puisqu'il n'y aura qu'une demi-séance du côté de Wall Street. Il n'y avait déjà pas de journée boursière hier pour cause de Thanksgiving. Donc du coup, assez peu de direction, assez peu de décisions et de réflexion en termes d'orientation des investissements. À noter quand même une très légère tension sur les taux d'intérêt qui ont eu tendance à se détendre très violemment ces derniers jours. Le 10 ans français remonte à 2,36. On est à 1,91 pour la dette allemande de même échéance. Petite tension sur la dette américaine à 3,71. Enfin, on reste vraiment sur les dynamiques du moment, à savoir un écartement des spreads entre zone euro et États-Unis. Alors, ça profite en un sens à l'euro-dollar, qui avait bien accroché à 1,04, mais du fait de ces mouvements de court terme, on passe légèrement sous le seuil à 1,0393. Du côté des valeurs qui réagissent le plus, là, en ce moment, à la Bourse de Paris, à noter Total Energy, qui signe la plus forte hausse du CAC 40, à plus 0,95%. On est à 58,37 €. À noter que ça frétille un petit peu du côté des prix du pétrole. On remonte à 86 $ pour le baril de Brent de mer du Nord. On s'approche doucement des 80 pour le brut léger américain, à 79,48. Donc c'est sans doute pour ça que l'énergie signe de bonnes performances. À noter Vivendi qui gagne 0,6% à 8,72 €. ArcelorMittal plus 0,59 à 25,50 et Sanofi plus 0,39 à 87,34 €. Alors un mélange de valeurs cycliques, un peu plus défensives, de l'énergie. Il y a un petit peu de tout. Il n'y a pas vraiment de préférence sectorielle. La plus forte hausse du SBF 120, elle est pour OVH qui signe une nouvelle ligne de crédit hein, très importante. Le titre qui gagne 3,2% à 14,75 €. À la baisse, on a Eurofin Scientifique qui recule d'1,37%, plus forte baisse du CAC à 67,66 €. Enfin, rien de bien méchant. McPhy Energy signe la plus forte baisse du SBF 120 à moins 3,92 €, 12,46 €. Elior signe une baisse de 3% à 2,75 €, mais après avoir gagné plus de 10% lors de la séance d'hier avec ses rapprochements en vue avec son actionnaire de Richebourg. Le CAC 40, moins 0,26%, 6689 points, l'euro 1 $, 0,396. Cédric.
Merci Antoine. Antoine Larrigaudry.
BFM Business, BFM Patrimoine, regard croisé.
Regard croisé qui réunit ce matin Rachid Medjaoui. Bonjour Rachid.
Bonjour Cédric.
Pour Louvre Banque Privée, Nicolas Godzman, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là pour Financière de la Cité. D'abord, qu'est-ce qu'on pense de ces marchés, Rachid? On voit chaque entame de séance, quasiment cette semaine, beaucoup d'hésitations, de faibles variations, puis après ça se dessine un peu plus dans l'après-midi, mais voilà, il y a de l'hésitation alors qu'on est sur les 6007.
C'est normal qu'il y ait un peu d'hésitation quand vous prenez 15% en ligne droite, si vous regardez tous les indicateurs un peu techniques, que ceux qui aiment bien les chartistes regardent, le RSI, on est vraiment très 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 tendu, donc c'est normal qu'on se pose des questions, sachant que les raisons derrière cette hausse sont... il y avait un certain nombre de peurs qui ont été diminuées, le pic d'inflation, tout ça. Donc on cherche de nouveaux catalyseurs. Je suis pas sûr que d'ici la fin de l'année, on les trouve en Europe. Ça veut pas dire que la bourse peut pas continuer à monter. Loin de là, pour des raisons notamment, vous le savez, saisonniers. Hein, il y a des effets saisonniers très forts. Il faut peut-être les chercher du côté plutôt américain, où là, le marché américain a également rebondi depuis 2 mois. Mais techniquement, on est moins tendu qu'en Europe. Et donc, on est tous en train de scruter la ligne des 4050 sur le S&P 500. Pourquoi ? Parce que c'est la moyenne mobile 200 jours qui a été franchie par notre CAC 40 depuis déjà un certain temps à 6004. Et si jamais, effectivement, le S&P américain devait franchir ce seuil-là, ça, voilà, on pourrait, alors, les catalyseurs derrière ce franchissement, ça peut être encore des bonnes nouvelles sur l'inflation, le fait qu'on soit rassuré que, enfin, la Réserve fédérale décide de piloter en arrêtant de regarder le rétroviseur et plutôt de regarder un peu plus tôt devant, voilà, donc c'est peut-être pour ça. Donc nous, on se laisse porter, contrairement aux trop, vous savez, c'est la quatrième fois qu'on a une tentative de rebond. Voilà, les trois dernières fois, ça n'a pas été très loin. Là, on pense que ça peut aller peut-être un peu plus loin parce que, voilà, donc on se laisse un peu porter chez Lourdes par rapport à ça.
Nicolas, financière de la Cité, comment est-ce qu'on voit les choses sur ces marchés un peu particuliers?
Oui, je pense qu'effectivement, toutes ces questions de rebond qu'on a eues pendant l'année, en fait, sont consécutives à chaque fois où le marché commençait à penser qu'il pouvait y avoir éventuellement un pivot de la part des banques centrales. Mais je pense que cette fois-ci est un petit peu différente parce que le pivot en question de la part de la Fed commence à prendre un peu plus d'ampleur et commence à devenir de plus en plus crédible. On voit que les communications, notamment des différents banquiers centraux, montrent qu'il y a vraiment une volonté, et on l'a vu encore une fois dans les minutes qui ont été publiées par la Fed cette semaine, qu'il y a une volonté de commencer à se calmer un petit peu sur le rythme de hausse des taux. Il y a une incertitude maintenant sur le niveau du taux terminal qui sera atteint l'année prochaine. Mais évidemment, à partir du moment où on voit que les banquiers centraux prennent en compte éventuellement l'impact que ce peut avoir, que leur action peut avoir sur l'économie, ça peut commencer effectivement à resserrer un petit peu l'étreinte qu'il y a sur ce niveau d'activité et porter l'activité des entreprises est donc plutôt favorable de leur côté. Ce qui est d'ailleurs assez heureux pour les entreprises européennes, c'est qu'évidemment, elles ne dépendent pas majoritairement du marché européen. Donc, on compte plutôt sur les Américains pour pouvoir porter cette action-là, parce que malheureusement, du côté européen et du côté de la BCE, on n'en est pas à ce niveau-là. Et donc là, on a plutôt une contrainte qui peut se porter sur le niveau d'activité des entreprises européennes qui se situent en Europe. Mais encore une fois, heureusement pour elles, c'est assez minoritaire pour le moment.
Alors justement, rentrons un petit peu dans le détail. Quel est votre sentiment, par exemple, sur l'état de santé de l'économie américaine? C'est vrai qu'on a vu que du côté inflation, ça semblait vouloir s'améliorer. Il y a ces midterms qui ont, entre guillemets, divisé le Congrès, mettons beaucoup de guillemets dans le mot divisé, mais qui donc devraient ralentir un petit peu le moteur budgétaire. Et donc la Fed, effectivement, qui se rapproche de plus en plus de ce fameux pivot qu'on guette depuis des mois.
Alors tout dépend ce que vous regardez. Hein. Si vous regardez par exemple l'indicateur de PIB calculé par la Fed d'Atlanta, vous savez le fameux GDP Now, le consensus est aujourd'hui sur une hausse du PIB de 1+1%. Cet indicateur donne du 4% aujourd'hui. Donc ça traduit bien une certaine résilience. Donc si vous regardez, vous faites une moyenne un peu de tous les chiffres, vous dites la récession américaine, elle n'est pas au coin de la rue. Voilà. Maintenant, si vous essayez de regarder un peu plus devant et vous regardez par exemple l'immobilier. Vous regardez la dégradation des conditions financières qu'on a eues depuis le début de l'année. C'est pas simplement les taux. C'est les taux, le dollar, c'est les spreads de crédit, et c'est bien entendu la réduction du bilan qui a à peine commencé. Vous dites attention, ça va peser dans les prochains trimestres. Donc nous, on reste sur l'idée que la récession américaine n'est pas inéluctable, mais elle est quand même assez probable. Mais qu'en revanche, et c'est ça qui est important au fond, elle devrait être, si elle arrive, assez modérée. On ne voit pas de déséquilibre majeur. Alors ce qui nous fait peur par contre, et c'est une vraie question, c'est pour le moment, cette croissance a tenu aussi parce que le crédit était resté assez dynamique. Or, vous savez que les banques font beaucoup de crédit parce qu'elles avaient beaucoup de dépôts, sauf que les dépôts des banques sont en train de fondre puisque la plupart des clients retirent leurs dépôts pour aller sur des SICAV monétaires qui aujourd'hui rapportent du 3% aux États-Unis, alors que les banques rémunèrent à peine à 0,5 ces dépôts-là. Et on se dit que si jamais ce mouvement devait prendre beaucoup d'ampleur, il y a un risque de décrochage du crédit qu'on commence à voir d'ailleurs dans la masse monétaire un peu aux États-Unis, et c'est ça qu'il faut surveiller. Mais mis à part ce facteur de risque, voilà, peut-être une récession, mais si ça arrive, ça sera modéré et pas suffisant pour, je dirais, être un facteur très très négatif pour les marchés a priori.
Vous avez commencé à nous emmener aux États-Unis. Quelle vision vous avez justement de ce pivot qui approche, enfin qui semble vouloir approcher, de ce congrès qui va être peut-être moins budgétairement volontaire?
Déjà, je pense que ce qui est intéressant de regarder pour les États-Unis, c'est le point de départ, enfin la situation dans laquelle ils sont actuellement. Encore une fois, on a un taux de chômage qui est à peu près le plus bas depuis 50 ans là-bas. Ouais. On a des salaires qui progressent très fortement et on a surtout un niveau de demande domestique, en fait, c'est-à-dire quasiment le PIB, mais sans sans compter le déficit commercial, qui correspond, en gros, enfin, on a un niveau aujourd'hui qui est plus élevé que si on n'avait pas eu la crise. Donc, enfin, ils ont une situation, encore une fois, un point de départ qui est extrêmement élevé. C'est comme si on avait un avion qui était, qui avait décollé pour essayer de retrouver son altitude de croisière, et en fait, qui est au-dessus de son altitude de croisière et qui simplement essaye de revenir à cette altitude de croisière. Donc, ils ont besoin d'en ralentir un petit peu, mais juste un petit peu pour revenir justement à quelque chose qui soit à peu près un peu plus confortable et de se remettre justement en, de calmer cette situation de surchauffe pour simplement revenir à une situation d'équilibre. Donc, même si on avait un épisode légèrement récessif ou de ralentissement, encore une fois, le seul objectif, c'est de revenir à cette situation de plein potentiel, alors qu'on est aujourd'hui au-dessus de ce potentiel. Donc, il n'y a pas péril dans la demeure aujourd'hui. Évidemment, par contre, c'est quelque chose qui est quand même compliqué à réaliser de leur part, c'est d'arriver à faire en sorte qu'on retourne simplement au potentiel et pas repasser en dessous. Donc, c'est compliqué à réaliser. Mais on voit que pour le moment, dans les discours qui sont formulés par les gens de la Fed, qu'on commence encore une fois à se calmer et on commence surtout à commencer de parler du niveau d'activité, justement, et qu'il faut faire attention non plus à pas venir taper trop fort sur le niveau d'emploi qu'on a actuellement aux États-Unis. Donc il y a vraiment une volonté, en gros, je pense, de la part des autorités américaines, de simplement passer cette économie à son plein potentiel, ce qui est déjà quand même formidable, ce qu'on n'a jamais connu en Europe depuis pas mal de temps, et de continuer sur cette croisière-là. Donc on va dire, encore une fois, il n'y a pas péril dans la demeure aujourd'hui. Ensuite, on peut avoir des à-coups, on peut avoir des erreurs de communication de la part de la Fed, et je pense qu'il y aura encore une part, une volonté, notamment le vendredi prochain, qui sera la dernière prise de parole Jérôme Powell avant la période de blackout, avant le prochain FOMC, qui pourra avoir une volonté sans doute d'essayer d'être encore un peu dur avant ce FOMC, mais qui devrait lui-même annoncer une baisse dans le rythme de la hausse des taux, et on aura peut-être plus de nouvelles justement sur la situation du taux terminal qu'on aura pour l'année prochaine, et qui donnera, je pense, pas mal d'indications pour la fin d'année et le début d'année prochaine.
Alors, vous blaguiez, entre guillemets, sur la situation européenne. Qu'est-ce qu'il en est en Europe? Parce qu'on se disait, notamment l'Allemagne, ils sont peut-être déjà en récession. Et là, quand on voit les derniers chiffres, que ce soit les PMI, que ce soit le moral des consommateurs, que ce soit l'IFO, enfin, on voit que c'est peut-être pas joué d'avance, quand même, cette récession non plus.
Bon, au risque de se tromper, on pense que la récession, pour le coup, là, est inéluctable.
On ne peut pas échapper à la récession,
voilà.
Selon vous.
Après, le grand débat aujourd'hui, et c'est ça qui est important, parce que je rappelle juste, pour faire simple, en bourse, si vous avez une récession cyclique modérée, ça vaut moins 20%, mais pas plus. Donc, on peut dire que les points bas qu'on a connus cette année, c'est des vrais points bas. Si on rentre dans une récession plus sévère, plus structurelle, qui avec des conséquences parfois un peu systémiques, ça vaut pas moins 20, ça vaut plutôt moins 40. Donc, il faut qu'on se rassure là-dessus. Et c'est vrai que les derniers chiffres que vous citez semblent rassurer sur l'ampleur de la récession à venir. Alors, attention, on sait que un des paramètres qui va expliquer qu'on aura une récession modérée ou un peu dure, c'est est-ce que le climat va être rigoureux ou neutre en hiver. Et pour le moment, c'est vrai que les températures font que le risque de rationnement, en fait, c'est ça qui pèse sur la tête de l'économie européenne, le risque de rationnement à cause d'un hiver qui serait très rigoureux, bah, il semble, par définition, sa probabilité semble diminuer. Donc voilà, c'est comme ça que nous comprenons les dernières nouvelles. Ça n'empêche pas, à mon avis, le risque de récession, mais d'accord, ça vient réduire le risque du scénario un peu catastrophe.
On peut passer à côté d'une récession, selon vous, en Europe, en Allemagne?
En fait, il y a la problématique dans la situation actuelle, qui est quand même très particulière avec cette forte inflation qui est largement importée, c'est qu'en fait, ça ne se voit pas dans les chiffres de PIB. C'est que le PIB ne prend pas en compte le prix des produits importés. Ce qui veut dire que, en fait, vous évitez d'avoir le calcul justement des prix importés dans ce PIB-là. Si vous prenez la demande domestique européenne, en fait, vous regardez et vous vous rendez compte qu'on est 6% en dessous de la tendance, c'est-à-dire qu'on n'est même pas au niveau de fin 2019 aujourd'hui. C'est-à-dire que le niveau d'activité connu par les Européens et non pas par l'Europe en entière, c'est-à-dire donc pas les chiffres du PIB, lui est plutôt déjà en rentrée en récession. C'est le cas en France, c'est le cas en zone euro depuis le début de l'année, enfin depuis le T3 2021. Donc oui, il y a une contraction d'activité, c'est ce qu'on arrive à voir dans les chiffres, notamment des PMI, l'indice de confiance des consommateurs. Mm-hmm. Mais encore une fois, grâce au commerce extérieur et à la méthodologie employée pour calculer le PIB, ça ne se voit pas actuellement. Encore une fois, par contre, on devrait quand même arriver à une situation où ce trimestre en cours, le T4 plus le T1 de l'année prochaine, devrait être légèrement, effectivement, soit stagnant, soit négatif. Et on devrait quand même avoir quand même cette prise de conscience de la situation. Mais encore une fois, en termes de pouvoir d'achat pour les Européens, c'est déjà largement le cas, effectivement.
Bon, bah écoutez, on va essayer d'affiner un petit peu tout ça, effectivement, avec les chiffres qui viennent. Il y a une autre zone qui est intéressante, c'est la Chine, et on en parle beaucoup parce que les marchés semblent vouloir regarder chaque petit indice qui nous vient, que ce soit sur l'immobilier, sur le sanitaire, etc., et de s'en saisir comme si c'était le printemps. Vous y croyez-vous à une relance chinoise ?
C'est vraiment tout ce qu'on peut dire, c'est que la visibilité est devenue quand même extrêmement faible. Et je dois dire que, par exemple,
vous êtes moins convaincu que le marché.
Moins convaincu que le marché. Alors, on est encore investi. En revanche, on a profité de ces phases de soulagement pour revenir au mieux à une neutralité sur cette zone. À la fois pour des raisons court terme, c'est-à-dire que on ne sait toujours pas dire si la prise de pouvoir totale du président Xi est quelque chose qui va accentuer la reprise en main politique de l'économie chinoise, qui serait très négatif pour le moyen terme, ou au contraire, maintenant qu'il a plus de d'opposants au sein du Politburo, est-ce qu'il ne va pas se desserrer un petit peu et justement relâcher un peu, notamment la stratégie zéro Covid. Franchement, on n'en sait rien et c'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent par rapport à ça. Par ailleurs, derrière, vous avez des considérations plus long terme. Dans ce monde de confrontation économique pour le moment et de guerre froide économique, est-ce que si jamais les autorités chinoises devaient aller plus loin, un cran plus loin dans la réponse à ce qu'ont fait les États-Unis qui essayent de les mettre dans un corner, notamment du point de vue de l'approvisionnement en microprocesseurs, est-ce que les Chinois peuvent aller plus loin du point de vue gouvernance politique et économique, ce qui rendrait carrément ininvestissable la Chine? On en est là, si vous voulez. Donc, pour le moment, on observe. On pense qu'ils vont quand même relâcher un petit peu parce que on voit quand même que malgré la forte hausse du nombre de cas, ils ne paniquent pas comme ils avaient paniqué au mois d'avril, mars-avril à Shanghai. Mm-hmm. Ils ont appris un petit peu à vivre, un petit peu comme nous avec le Covid. Mais bon, parfois, ça se passe pas mal. Alors, il y a des Foxconn, effectivement. C'est pourquoi les salariés, il y a une fronde terrible. Là, vous avez montré les images tout à l'heure. C'est parce que beaucoup de gens commencent à refuser cette méthode de zéro Covid. Donc, vous voyez, donc on en est là. On se dit que potentiellement, le marché a tellement dérété. Il faut voir que le marché se paye. En termes de valorisation, on est au tapis. Donc, ça donne envie de rejouer un marché qui rebondit. Donc, c'est pour ça qu'on reste investi. Mais avec ces questions où on se dit que peut-être que dans quelques mois, on aura déserté cette Chine. Je vous fais remarquer d'ailleurs que tous les vendeurs, producteurs, par exemple, d'indices emerging sont en train de travailler sur des solutions où vous avez des indices émergents hors Chine.
Hors Chine, ouais.
Et pourquoi ? Parce qu'il y a des gens comme nous qui commencent à leur dire, au cas où, faites-nous un indice hors Chine, ouais, si jamais la Chine ne devenait ininvestissable pour des raisons notamment purement ESG, par exemple.
Vous, à la financière de la Cité, comment est-ce que vous appréhendez ces questions chinoises, effectivement, reconduction de Xi Jinping ?
On n'est pas très Chine, déjà. Mais ensuite, sur la question du rebond actuel, en fait, sur l'ouverture du marché chinois, la fin des confinements, le marché le joue effectivement depuis quelques semaines maintenant, mais je pense qu'il y a quand même une véritable problématique, c'est que pour l'instant la population chinoise n'est pas vaccinée de façon efficace. Elle est vaccinée mais avec les vaccins locaux qui ne donnent pas une efficacité importante. Si je fais une comparaison simplement, une règle 3 entre ce qui se passe aux États-Unis, ce qui s'est passé aux États-Unis et la situation chinoise, on a un rapport de 1 à 4 sur la population, donc il y a 4 fois plus de population, et ils ont un quart des capacités sanitaires américaines. Ce qui veut dire que les États-Unis aujourd'hui ont eu 1 million de morts avec le Covid, c'est-à-dire que si vous avez une population qui n'est pas protéger efficacement, vous risquez d'avoir une situation où vous pouvez avoir 10 millions de morts potentiellement. C'est effectivement politiquement inacceptable, ce qui justifie les politiques de confinement qu'on a pu voir du côté chinois. La seule solution qu'ils auraient, c'est de revacciner la population, mais avec quelque chose qui soit plus efficace, notamment les ARN, d'où la discussion notamment sur BioNTech et le vaccin chinois ARN, mais pour l'instant, on n'est pas encore là. Mais aussi longtemps que cette population ne sera pas protégée efficacement, je vois mal comment ils pourraient réouvrir sans courir le risque de faire peser ce risque sur la population, qui ne semble pas être tout à fait acceptable du point de vue politique pour Xi. Donc ça c'est déjà un premier point. Ensuite, au niveau plus structurel, c'est qu'ils se sont rendus compte évidemment qu'avec cette politique-là, ils ont une croissance de la consommation qui est quasiment à zéro sur cette année, donc on ne peut pas compter sur ce relais de croissance-là. Sauf qu'en même temps, ils avaient mis en place des structures qui permettaient en gros de contrer le niveau d'investissement qui était trop élevé et perçu comme trop élevé de la part de Xi. Donc ça, c'était quelque chose qu'ils voulaient faire de façon structurelle. Donc c'est pour ça que, d'accord, depuis 15 jours, ils ont souhaité arrêter un petit peu ce qu'ils voulaient faire au niveau de contrage de l'investissement et l'immobilier. Donc de relâcher un peu la pression de ce côté-là pour essayer de trouver au moins un petit peu un relais de croissance. Parce que pour le moment, le seul relais de croissance qu'ils ont trouvé, c'est les exportations à l'égard, enfin, en direction d'Europe et des États-Unis. Sauf que je ne sais pas si c'est tout à fait viable non plus dans le temps, notamment grâce aux sanctions américaines sur la technologie, parce que ça, encore une fois, ça peut être quelque chose qui peut être très destructeur pour l'économie chinoise à terme. C'est encore difficile de l'évaluer aujourd'hui, mais on va dire que les relais de croissance qu'on avait connus dans le passé pour la Chine me semblent être compliqués à l'avenir, et cela, c'est sans parler de la nouvelle perception qui me semble être plus juste de ce que fait politiquement la Chine, d'être en, d'accord, gros vraiment véritablement un rival et sans doute une menace aussi bien pour les États-Unis que pour les Européens.
Voilà, poser les grandes clés à avoir peut-être en tête au sujet de cette économie mondiale. Deux petites questions pour terminer. On a deux petites minutes, donc il va falloir des réponses un peu courtes, mais ça tombe bien. D'abord, Paris, qui ravit la place de première bourse européenne à Londres. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Ça m'inspire que le Brexit a été et restera certainement dans l'histoire une erreur monumentale. Et d'ailleurs... Le nouveau gouvernement britannique laisse fuiter que ça aurait été mieux s'il avait été dans le Brexit, ouais, et ça serait bien qu'il refasse de nouveau une coopération pour avoir accès au marché et dans cette guerre économique, parce qu'on est dans un environnement de guerre économique, il vaut mieux être dans l'Union européenne que tout seul.
Nicolas ?
Je prends la deuxième question.
Alors la deuxième question concerne les cryptos qui traversent une nouvelle crise majeure. Un regard là-dessus ? Alors on commence avec vous, du coup, Nicolas. Est-ce que vous êtes indifférent ? Est-ce que vous êtes inquiet ? Est-ce que vous êtes amusé ? Est-ce que...
Non, amusé, je ne vais pas dire ça, mais je pense que la bonne analyse, c'est celle de Neil Kashkari, qui est donc le président de la réserve fédérale des États-Unis de Minneapolis, qui disait la semaine dernière que ce n'était pas simplement la faillite d'un acteur dans un secteur sain, c'est un secteur entier qui n'a aucun sens. Et je pense effectivement que ce secteur n'a aucun sens. Et donc, c'est pas forcément une surprise. Mais de considérer, encore une fois, qu'on va pouvoir créer une monnaie qui échappe au contrôle des banques centrales, alors que les banques centrales représentent la monnaie, c'est-à-dire le premier pouvoir des États souverains à travers le monde, me semble être effectivement un non-sens. Et que ce secteur-là, aussi longtemps qu'il ne sera pas régulé, ce qui devrait arriver quand même assez rapidement, et on voit notamment la volonté des autorités américaines, notamment de Michael Barr, qui est au bord de la Fed, qui souhaite réguler le secteur. Aussi longtemps que ce secteur ne sera pas régulé, je pense qu'il sera difficilement prenable. Enfin, c'est difficile de prendre ça au sérieux. Et voilà. Et ça ne représente finalement qu'un outil de spéculation. Et sa seule valeur est d'être un outil de spéculation aujourd'hui.
Rachid. Alors, une crise de plus.
Alors, ça pose plein de questions. D'abord, la première question, au-delà de savoir est-ce que les cryptos sont utiles ou pas utiles, c'est est-ce que le dégonflement, l'éclatement, est-ce que ça peut avoir des risques systémiques ? Il faut faire très attention. On sait que, par exemple, beaucoup de particuliers avaient fait en même temps achat de techno et achat de crypto. Alors, s'ils perdent de l'argent sur les cryptos, est-ce que ça peut venir empêcher peut-être le rebond ou la poursuite du rebond des marchés actions et notamment du marché américain, sachant que le retail américain est toujours acheteur en ce moment à la bourse à Wall Street. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, bon, moi, si vous voulez, je sais pas si c'est quelque chose d'utile, pas utile, mais ce qui m'embête avec les cryptos, c'est que c'est compliqué d'investir dans un actif dont vous n'êtes pas sûr de pouvoir récupérer quand vous voulez. Si vous voulez, j'ai jamais entendu, on en parlait avec Nicolas avant, j'ai jamais entendu un dépositaire dire « Excusez-moi, j'ai perdu les actions que vous aviez déposées chez moi ». Donc, vous voyez, c'est ce genre de petit problème. Le jour où j'ai une chambre de compensation très solide, alors on me dit la blockchain.
Et donc de la réglementation.
La réglementation, voilà. Peut-être que, pourquoi pas, parce que, encore une fois, il y a des raisons peut-être théoriques à la venue des crypto-monnaies. Mais pour le moment, voilà, nous, en tout cas, on n'a pas de velléité à aller sur ce marché pour le moment.
Merci à tous les deux d'avoir participé ce matin à Regards Croisés. Donc Rachid Medjaoui pour Louvre Banque Privée, Nicolas Godzman pour Financière de la Cité. Merci. Très bonne fin de semaine à tous les deux. Le marché parisien, lui, il a opté pour la baisse, même si elle n'est pas très forte, -0,11% en ce moment pour l'indice qui est pile sur les 6700 points.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. BFM Business. l'émission 100% placement. BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
11h30, vous êtes sur BFM Business au cœur de BFM Patrimoine et on prend le pouls du marché comme à l'entame de chaque demi-heure. Stéphane Sauduteil suit pour nous attentivement la séance du jour depuis technibourse.com. Et Stéphane, on a un petit peu lâché prise aux alentours de 11h et pour le moment on essaye d'organiser visiblement la résistance.
Oui, depuis un quart d'heure on remonte. On est revenu sur les 6700 points en la faveur d'une petite reprise sur les futurs américains. On était dans une tendance bien baissière sur les futurs américains depuis 9h. Et puis à 11h, ça s'est un tout petit peu amélioré. Alors est-ce que c'est vraiment de bon augure pour aller chercher un tout petit peu plus haut les 6715-20? Bon, on va le savoir assez vite. On est sur un niveau de résistance. C'est un point pivot jour. C'est un niveau qui est très surveillé par les opérateurs de marché. Donc si on arrive à se hisser au-dessus des 6705, peut-être qu'il y a un petit potentiel. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, moi je serais plutôt tenter de vendre à découvert vers 6715, 20, 30 pour viser un retour en arrière parce que ce marché est quand même monté très, très rapidement, mine de rien, depuis fin septembre, quasiment en ligne droite, sans grande phase de correction. Donc c'est vrai que c'est ce qui solidifie aussi, bien sûr, cette hausse puisqu'elle est très bien étayée. Voilà, le premier niveau d'alerte vraiment réel et sérieux qu'on aura sur le CAC 40, c'est la rupture des 6600 points. C'est vrai que ces niveaux d'alerte montent assez régulièrement compte tenu de cette hausse qui est aussi assez régulière. Et puis, si on passait sous les 6600 points, on aurait encore une zone qui sera certainement difficile à enfoncer d'ici la fin de l'année. C'est les 6002, 6003. Je ne pense pas qu'on puisse descendre vraiment en dessous de cette zone. Je retiendrai aussi le beau rebond de l'euro-dollar. Je vous en parlais la semaine dernière. Je me disais autour des 1,02, on peut peut-être viser 1,04, 1,06. On est à 1,04. On peut peut-être monter un petit peu plus sur l'euro-dollar. Donc ça a fait du bien également aux métaux précieux, aussi bien à l'or qu'à l'argent. Et puis on a toujours, vous parliez des crypto-monnaies tout à l'heure avec vos invités, c'est vrai qu'on est quand même assez faible, on est vraiment décorrélé depuis quelques semaines par rapport à l'évolution du Nasdaq qui va un petit peu mieux quand même si pour voir vraiment des marchés très très positifs aux États-Unis, il faut aller vraiment sur le Dow Jones qui en passant au-dessus des 34 000 points envoie aussi encore un signal haussier. C'est pour ça que sur le CAC 40, on est quand même si haut. On essaye de s'installer au-dessus des 6007. Mais sur le front des crypto-monnaies, c'est vrai que tant qu'on n'est pas, on n'a pas regagné les 17 000, 18 000 dollars sur le Bitcoin. On n'est pas à l'abri encore d'avoir une petite faiblesse. Faiblesse qui s'accentuerait si on passait sous les 15 500 dollars. Et là, on pourrait avoir de nouveau un sell-off qui pourrait nous amener en bout de course peut-être vers les 12 600 dollars. Donc ça, il y aurait encore peut-être du chemin à parcourir à la baisse. On ne retrouve pas une corrélation positive avec le Nasdaq et que le Nasdaq poursuit pas sa progression. Progression un peu difficile peut-être pour le Nasdaq parce qu'il y a un gros niveau de résistance. Allez, on va dire 300 points au-dessus des niveaux actuels. Nasdaq 100, 11 880. On a une grosse résistance vers 12 100 points. Il faudrait déborder cette résistance peut-être pour agiter positivement le marché des crypto-monnaies. On n'en est pas encore là. Comme je vous disais tout à l'heure, avec plus de 70% d'investisseurs haussiers sur les États-Unis, il faut quand même un petit peu se méfier des 15 prochains jours à mon sens. Bon, peut-être pas avoir une baisse très très forte, mais de quelques pourcents, ça pourrait tout à fait être justifiable avant peut-être d'avoir ce fameux rallye de fin d'année entre la trêve des confiseurs.
Merci beaucoup Stéphane. Stéphane Sauduteil, Technibourse, qui nous accompagne chaque vendredi pour suivre les évolutions techniques et graphiques du marché. Le CAC 40 donc, qui perd 0,11%, 6700 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, idée de fond.
Et on retrouve en duplex depuis Morningstar, Clémence Dagicourt. Bonjour Clémence.
Bonjour.
Gérante de portefeuille chez Morningstar. On fait un focus sur ce qu'on appelle les fonds climat. La COP27 vient de se terminer à Sharm el-Sheikh. Quelles sont les options disponibles aujourd'hui pour les investisseurs qui souhaitent finalement exploiter, exprimer cette conviction, cette thématique dans leur portefeuille.
Oui, alors les investisseurs sont de plus en plus nombreux à vouloir protéger leur portefeuille contre les risques climatiques ou encore accompagner la transition vers des énergies propres, mais ils sont aujourd'hui confrontés à une offre très importante en matière de placement financier. C'était autrefois un investissement de niche, attire désormais l'attention de beaucoup d'acteurs de la sphère financière, les marchés financiers ayant un rôle important à jouer dans la course au net zéro. L'Agence internationale de l'énergie estime que les investissements dans les énergies propres et les infrastructures nécessaires à la transition énergétique devront plus que tripler d'ici 2030 pour atteindre environ 4 000 milliards de dollars par an. Le nombre de fonds cherchant à répondre à ces enjeux a donc connu une croissance exponentielle. Rien qu'en Europe, ils ont triplé sur 3 ans pour atteindre 750 fonds.
Alors justement, l'offre est pléthorique et on a peut-être encore plus que d'habitude besoin de vos lumières, de votre guidage. Quels conseils vous pourriez donner pour que celles et ceux qui pourraient être sensibles à cette thématique puissent sélectionner un fonds ?
Ah oui, tout dépend des objectifs d'investissement, de l'appétence au risque et des préférences de chacun en matière d'investissement durable. Alors ceux qui s'inquiètent des risques que présente le réchauffement climatique pour les placements peuvent se tourner vers des fonds à faible empreinte carbone. Il s'agit de stratégies diversifiées qui vont restreindre l'intensité carbone du portefeuille par rapport à un indice de référence, ou encore qui vont privilégier des entreprises ayant fait le choix d'intégrer directement les problématiques liées à la transition énergétique à leur stratégie de développement. Ce sont des fonds qui vont principalement permettre de limiter les risques liés au climat. Ils sont très bien diversifiés et peuvent donc être utilisés comme cœur de portefeuille. Parmi ces fonds, on peut citer le fonds BNP Paribas Easy Low Carbon sans Europe et les fonds DNCA Invest Beyond Climate European Equities ou encore l'IXOR Net Zero 2050 S&P Europe Climate qui intègrent des défis posés par la transition énergétique à leur stratégie. Les investisseurs qui souhaitent adopter une approche plus ciblée et contribuer plus activement aux défis posés par les changements climatiques peuvent se tourner vers des fonds plus thématiques. Les fonds dits solutions climat privilégient des entreprises dont les produits ou services cherchent directement à aider les gens à s'adapter au changement climatique. Ils sont destinés aux investisseurs recherchant un bon équilibre entre la réduction du risque carbone, puisqu'ils excluent généralement les entreprises exposées aux énergies fossiles ou ayant un bilan carbone, tout en offrant des opportunités de rendement liées aux nouvelles sources de croissance associées à la transition énergétique. Parmi ces fonds, on peut citer le fonds Candriam Sustainable Equity Climate Action ou encore BGF Circular Economy.
Bon, et si on veut prendre un peu plus de risques ?
Alors, si on veut prendre un peu plus de risques, on peut se tourner vers des fonds Clean Tech ou Clean Energy. Ce sont des fonds qui financent directement des sociétés généralement de plus petite taille qui développent des technologies innovantes en matière d'énergie propre ou de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Ils cherchent un univers de valeur plus réduit et moins liquide. Ils sont donc beaucoup plus volatiles. De fait, ils doivent être utilisés comme une allocation satellite à un portefeuille déjà très bien diversifié. Robeco Sam Smart Energy, par exemple, se trouve dans l'univers de ces fonds Clean Tech ou Clean Energy. Donc pour terminer, quelle que soit l'option choisie, il est important de bien comprendre l'objectif d'investissement pour s'assurer que l'approche du gérant correspond bien à ses préférences en matière d'exposition carbone et de gestion de la transition énergétique, mais surtout en termes de risques financiers et d'horizon d'investissement.
Merci beaucoup Clémence. Clémence Dachicourt, Morningstar, cette semaine dans Idées de fonds, le marché parisien qui tente de revenir à l'équilibre et de revenir notamment sur ces 6700 points. On est juste au-dessus des 6706 points, mais juste en dessous de notre niveau de clôture d'hier soir, moins 0,02% actuellement.
BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
Et pour répondre à toutes vos questions, celles que vous nous envoyez notamment sur notre boîte mail, bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr, et bien deux de nos experts sont de retour en plateau. François Monnier pour la rédaction d'Investir et Eric Blen pour Swiss Life Gestion Privée. Vous êtes prêts, messieurs ?
Absolument.
On est prêt.
Allez, coup d'envoi pour vous, François, avec cette question que vous envoie Eric. Il voit que Disney Plus séduit beaucoup d'abonnés et il se demande s'il faut acheter l'action.
Oui, c'est un titre qu'on aime bien chez Investir. Et c'est vrai que Disney Plus, ça marche très très fort, puisque ça a été lancé en 2019 et que maintenant, ils ont déjà plus de 164 millions d'abonnés. Et c'est qu'une partie de la VOD, la vidéo à la demande, puisqu'ils ont d'autres services avec tous les services qu'ils proposent, notamment aussi dans le sport. Ils sont à 235 millions de, d'abonnés. Et là, on voit que le pari de Disney, qui est de dire, bah voilà, la télévision classique est en déclin, mes parcs d'attractions sont en déclin, il y a peut-être d'autres choses à faire. Et là, on voit que ça... ils ont trouvé un relais de croissance. C'est une nouvelle histoire qu'ils sont en train de raconter. Et après, à cela se rajoute bien sûr tout l'univers Disney, hein, parce que c'est pas juste des parcs d'attractions et de la télévision classique. Hein. Ils ont aussi tout système de licences, de la vidéo, des jeux vidéo, de l'édition. Et donc, ça fait un catalogue qui est assez solide, qui fait que ben on peut se dire que il va y avoir après ces grosses périodes d'investissement, ils vont retirer un petit peu d'argent, voire beaucoup de marge de ces investissements. Ça peut aussi susciter de l'intérêt d'autres acteurs, puisqu'il y a des rumeurs d'OPA, notamment d'une opération d'Apple sur Disney. Donc on va voir si ça se concrétise ou pas, mais je crois qu'Apple n'a toujours pas démenti. Donc c'est à surveiller. Mais voilà, en tout cas, c'est un acteur qui compte, hein, qui a d'abord plus d'abonnés aujourd'hui que Netflix. Mmh. Et donc on pense qu'il faut l'acheter aujourd'hui, même si ça...
Pour autant, certains disent... effectivement, gros succès, etc. Mais il y a des problèmes de rentabilité.
Bien sûr, parce que lorsqu'on on finance une croissance aussi forte sur un délai de temps aussi court, ça veut dire beaucoup d'investissements et que c'est après qu'on va pouvoir avoir un retour sur investissement. Donc là, on est dans la phase encore d'investissement, même si les bénéfices sont en train de progresser fortement sur l'ensemble de l'empire Disney. Après un période de creux il y a 2 ans, là, on est vraiment sur une belle trajectoire de croissance rentable, avec bien sûr toujours des investissements qui sont lourds, mais c'est un esprit de conquête qui souffle sur Mickey.
Bon, vous êtes pour garder des titres étrangers, des titres de Mickey.
On garde les États-Unis et donc on...
Vous aimez les dessins animés ?
Moi, j'adore les dessins animés. Pas de problème. Par contre, on n'a pas Disney en portefeuille.
Bon. Question de Laurie. Eric, elle a encore une ligne de Sanofi dans son PEA et elle se demande s'il faut céder ce titre pour un arbitrage vers une valeur plus dynamique.
Ben moi, je la garderai, Sanofi, hein, pour être honnête. C'est vrai qu'elle a fait un été catastrophique, puisqu'il y a eu 2 molécules qui étaient en phase de recherche qui ont été arrêtées, et il y a eu le retour du procès à venir sur le Zantac, qui a fait beaucoup de mal à la société, puisque sur une histoire de 3 milliards d'euros maximum, évaluée par les analystes, elle a perdu 20 milliards de capitalisation boursière. Donc c'est beaucoup pour une entreprise qui finalement, moi je trouve, retrouve un certain équilibre. Hein. Alors il y a aussi la débâcle sur le plan du Covid, où comme une société comme Sanofi, qui est leader dans les vaccins, n'arrive pas à sortir dans les temps une capacité à vacciner la population européenne. Bon, ça n'a pas été non plus une très bonne chose. Mais Paul Hudson a pris les rênes de cette entreprise en tant que directeur général. Il mène quand même tambour battant beaucoup de chantiers et qui sont nécessaires. Donc sur la recherche, un nouveau patron de la recherche en France, important. C'est un relais nécessaire à partir de 2025, un peu loin quand même. Aussi un sujet, cette société peut être mieux gérée, plus au cordeau. Il a pris un directeur financier qui vient de chez Stellantis. En général, la réputation des automobilistes est bonne en termes de capacité à serrer les boulons, on peut le dire. Et puis, sur le Dupixent, qui est quand même, là pour le coup, un médicament qui est dans les consensus jusqu'en 2024-2025 et au-delà, on a un chiffre d'affaires qui est passé par le consensus, hein, de 8 milliards à 15 milliards de chiffre d'affaires, avec une belle rentabilité. Ce qui fait que quand on regarde les lignes de résultats, elles sont en progression, ce qui est nouveau. Lorsqu'on regarde le dividende, on est à 4,2% de rentabilité annuelle. Le PER est de 10. L'exposition dollar est assez forte et on sait tous que l'euro-dollar a été favorable aux entreprises qui exportent. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que la valeur n'est pas aimée. Elle n'est pas sensible à l'activité économique. Qu'est-ce qui se passe, quoi qu'il arrive sur l'activité. C'est pas une chouchou ESG, c'est plutôt mieux. Et il n'y a pas beaucoup de dettes. Donc, c'est bien. Moi, je le garderai.
Vous êtes tenté par Sanofi ou vous remplaceriez?
Non, moi je garderai Sanofi précieusement dans mon PEA pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une valeur qui est acyclique. Donc on parle de net ralentissement de la croissance économique mondiale l'an prochain. Bah, sur Sanofi, sera aucun impact. On a une décote de près de 25% par rapport aux autres grands laboratoire concurrent. Et puis, vous avez du rendement. Donc, pour ces trois raisons, je garderai Sanofi dans mon PEA.
Bon, ben non. A priori, vous n'arbitrerez pas, Laurie, cette ligne de PEA. Question de Sandra. Elle n'a pas d'auto dans son portefeuille. Et ça l'interroge. Elle voudrait savoir ce que vous pensez notamment de Faurecia.
Ah bah Faurecia, c'est peut-être parce que c'est le titre qui baisse le plus dans le secteur auto, mais il baisse, je pense, pour des bonnes raisons. Hein. Le problème de Faurecia, c'est qu'ils ont trop de dettes. Ils ont racheté un constructeur, un équipementier allemand qui s'appelle Hella, et ils ont eu la mauvaise idée de faire ça avant la guerre en Ukraine, et ils ont fait ça essentiellement à 90% par de l'endettement. Et là, c'est quand même un gros morceau à avaler, hein, puisque c'est plus de 5 milliards de valeur, 5 milliards 4. Donc, résultat, on se retrouve dans un secteur qui est ultra cyclique, avec des problèmes de production et une dette lourde dans un contexte où le coût de la dette va faire que d'augmenter, puisque on parle sans arrêt ensemble de hausse de taux. Donc les charges financières, elles vont être extrêmement lourdes. Donc je pense qu'il ne faut pas s'embêter dans un dossier aussi compliqué, dans un secteur qui est automobile, qui est lui-même compliqué. Donc faisons simple, allons directement vers un acteur qui a un bilan extrêmement sain, qui propose du dividende et un peu plus de visibilité, et c'est Stellantis. Stellantis, on a 8% de rendement. Donc c'est un des rendements les plus élevés de la cote. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont aucune dette, ils ont beaucoup de cash dans leur bilan, et ils ont un niveau de valorisation, ça se paye 3 fois les bénéfices. Donc il faut faire simple, et je pense que Stellantis, ça mérite aussi d'être dans un PEA.
Donc plus Stellantis que...
Que Faurecia, absolument.
Sur l'auto, vous
avez
quelle vision ?
Tout à fait d'accord avec François. Pour acheter des équipementiers Faurecia, il faut penser que les volumes en fait vont progresser. C'est possible, parce qu'on a des volumes relativement faibles, mais ce qui est compliqué, c'est donc toujours l'accès aux semi-conducteurs, toujours le prix de l'automobile dans une période où on sait bien que c'est compliqué aujourd'hui, on parle beaucoup de pouvoir d'achat, et puis dans une période où les taux montent et on parle de récession potentielle, c'est compliqué d'acheter un équipementier aujourd'hui, même s'il a baissé sensiblement, hein, c'est une des valeurs qui a le plus baissé, mais avec de bonnes raisons, elle était endettée. On regarde le consensus bénéficiaire, il a baissé de 89% quand même cette année et de 60% pour l'année prochaine. C'est énorme, hein. Donc ça justifie aussi de la baisse. Stellantis, c'est très bien. Hein. Voilà.
Bon, là vous avez un bon consensus, Sandra. Oui. Si vous voulez de l'auto dans votre portefeuille, vous mettez du Stellantis.
C'est deux fois en PER. Hein. Ouais. C'est deux fois. Hein. Et ouais. Puis il y a un énorme cash, un bon management.
Eh bien voilà, c'est tranché. Antoine s'intéresse à Téléperformance qui vient de rebondir sensiblement, mais la chute a été violente. Quel conseil vous lui donneriez ?
Gardez-les. Gardez-les. C'est marqué performance, donc ça va aller bien. Donc, Téléperf, oui. Il y a eu deux sujets importants. Un sujet TikTok aux États-Unis et dont ce qu'ils appellent ça gentiment la modération de contenu. Donc, en fait, c'est le tri entre les contenus qui sont à pouvoir publier sur les réseaux sociaux et ceux qui sont évidemment à mettre de côté parce que ils sont abusifs ou ils sont à éviter. Et puis, il y a un sujet en Colombie où on a un gouvernement qui est passé très à gauche, donc anti-entreprise, et qui donc a attaqué Téléperformance sur le sujet des droits des travailleurs.
Ouais.
Eux disent qu'ils respectent largement les choses et donc en plus ils n'ont jamais rien reçu de la part du ministre du Travail colombien. Bon, donc ça fait baisser quand même le titre de 46%.
Ouais, c'était pas
accroché quand même. Hein.
Totalement anodin. Hein.
Ah ouais, c'est pas anodin. Donc pour aujourd'hui, les révisions bénéficiaires qui sont quasiment absentes, hein, on a un titre qui valait 33 fois en termes de PER sur les 5 dernières années, donc pas uniquement cette année, mais sur les 5 dernières années, qui vaut aujourd'hui 2023 13 fois. Donc quand même, on va pas vendre ça maintenant, hein, ça serait quand même dommage, le mal est fait. Et moi, je laisserai François parler du sujet de la façon dont on traite Téléperformance et de la façon dont on traite Apple, pour des sujets quand même qui sont importants sur le sujet ESG, mais c'était une très bonne note ESG. Et c'est vrai que l'ESG aujourd'hui est aux mains des entreprises américaines. Donc aujourd'hui, les controverses, les États-Unis nous expliquent qu'il faut peut-être baisser la note, il faut passer du vert au orange, machin, et ça fait baisser sensiblement les titres. Et il y a des gens qui sont très contents de ça, parce que maintenant, on peut shorter en bourse. Donc c'est super facile de prendre des bonnes notes ESG, se mettre short, puisqu'en fait, les Européens, qui sont plus sensibles aux thématiques ESG, ils se sont précipités sur toutes les valeurs qui étaient des bonnes valeurs sur le plan de l'ESG, hein, soi-disant. On se met short, on balance des rumeurs, on explique qu'il y a controverse, ça se casse la gueule, on rachète, on gagne beaucoup d'argent. C'est super bien. Bon, voilà, on ne vend pas.
Bon. Dur, hein, oui, on tourne autour de Téléperf depuis un moment, là.
Bien sûr. Et je pense qu'il y aura peut-être d'autres encore. Téléperformance, on est sur un nouveau système, une nouvelle approche où il y a bien sûr la croissance bénéficiaire et il y a l'évolution de cette notation liée à l'environnement, au social, à la gouvernance qui prend de plus en plus d'ampleur à la fois dans la gestion, aussi dans l'analyse et dans le comportement globalement des investisseurs.
Ah, c'est vrai que ce que dit Eric, c'est quand même problématique de se dire qu'une simple rumeur peut finalement...
Ça complexifie l'approche des dossiers, donc il faut en prendre compte. Nous, chez Téléperformance, concrètement, depuis cette affaire, à Téléperformance, on est resté à l'achat du titre, mais c'est plus un achat fort. Pourquoi c'est plus un achat fort? Parce que on pense que du fait de ce choc, lorsqu'un titre comme ça, c'était la plus belle valeur en termes de performance boursière du CAC 40, hein, se prend à moins 40 en une séance, ça va laisser des traces.
Oui.
Et ça aura comme conséquence, probablement, de freiner la croissance bénéficiaire de l'entreprise, qui va réfléchir à deux fois avant de dire est-ce que je deviens le gendarme des réseaux sociaux d'un tel ou d'un tel parce que je peux avoir des ennuis ESG. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la marge des affaires, finalement, Téléperformance va être gênée. Donc sa croissance, elle peut être un peu moins forte qu'espérée. Et ça a des vraies conséquences. Donc ça, après, je pense que dans les années qui viennent, les notations ESG vont être davantage encadrées, réglementées, et ce sera fait dans les meilleures règles de l'art. Mais on est au tout début, et ça fait quelques dégâts, et parfois les dégâts, on peut dire qu'ils sont quand même injustifiés, ou clairement injustifiés.
Voilà pour le cas Téléperformance. Question de Jean-Charles. L'action Bolloré progresse cette année alors que la bourse baisse. Est-ce qu'il faut prendre ses bénéfices?
Non, je tiendrai sur Bolloré qui a fêté son bicentenaire en février dernier. Là, ils sont en train de vendre l'activité logistique en Afrique. Hein. Ça va leur générer un joli chèque de plus de 5 milliards, de près de 6 milliards, à rapprocher une capitalisation de 15 milliards. Donc, ça veut dire qu'ils vont avoir beaucoup de cash, un cash où, dans un moment où l'argent redevient à une vraie valeur, il n'y a plus d'argent gratuit, c'est un argent maintenant qui rapporte. Donc, mais la grande question, c'est qu'est-ce qu'il va faire de ces 5, 6 milliards de cash qui vont arriver dans quelques mois. On regarde bien sûr ce qui peut se passer du côté de Vivendi. Vivendi, ils ont racheté les actions. Ces actions, ils vont probablement les annuler l'été prochain et ça va probablement faire monter la participation de Bolloré, qui, lorsque la participation dépasse 30%, devrait être obligé, normalement, mais parfois, ils trouvent des astuces réglementaires pour ne pas le faire, mais normalement, ils doivent déclencher une OPA sur Vivendi. Donc voilà, donc, en tout cas, on est dans une logique de simplification, probablement, de toute la chaîne de commandement de l'Empire ouais. Bolloré, et on sait qu'il y a la compagnie de Lodet qui rachète régulièrement du Bolloré. Donc c'est intéressant, parce qu'il y a une décote. Il y a une décote de 36%, il y a un actif donc 29,5% de Vivendi, il y a toujours 18% du MG. Donc je pense que dans un contexte où on parle de ralentissement économique, là il y a des belles opérations financières et on sait que quand il n'y a plus de croissance économique, il y a beaucoup d'ingénierie financière qui se met en place pour créer de la valeur. Et je pense que ça va être encore une bonne année l'année prochaine pour Bolloré.
Allez, il vous reste une minute pour répondre à Pauline. 2023, value ou grosse, comment me positionner pour faire de bons coups ? Eric.
Alors, 2023, value ou growth? Ce qu'il faut voir, c'est quand on est sur une période de hausse des taux, ça fait en général baisser les PER. Et les PER élevés, c'est plutôt les valeurs de croissance. Donc, sans être complètement absent des valeurs de croissance, il faut aussi regarder les valeurs dites peu chères, avec du potentiel. On a parlé de Stellantis à l'instant, et je trouve que c'est très intéressant. On peut parler de Total, on peut parler des banques et des assurances. Et donc, il s'agit de mieux équilibrer les portefeuilles que de faire que des portefeuilles de croissance. Mais avant tout, je pense que l'année prochaine, il faudra faire des valeurs de rendement. Et ça me semble plus intéressant. Donc acheter de l'AXA, acheter de l'Orange, acheter du Sanofi, acheter du BNP, acheter du Total. Tout ça m'intéresse beaucoup parce qu'en fait, c'est très difficile de trouver aujourd'hui des gens qui sont là à l'achat quand le marché baisse et quand les Américains veulent pas du marché européen. Eh bien, on a quand même une rupture là, c'est les produits structurés. Les produits structurés sont en train d'acheter considérablement la bourse et on s'en aperçoit pas. Et il y a beaucoup de produits structurés dans les réseaux. Et qu'est-ce qu'ils font, ces produits structurés? Ils achètent des rendements. Et donc, quand on a une entreprise de rendement qui baisse, il y a plus de produits structurés, ça soutient les cours. Et en tout cas, si ça monte pas, on a au moins le bénéfice du rendement annuel et ça me paraît très intéressant pour 2023.
Merci beaucoup à tous les deux. François Monnier, donc, pour la rédaction d'Investir. Eric Blaine pour Swiss Life Gestion Privée. Répondez à toutes vos questions. Bon week-end à tous les deux. Dans un instant, c'est 60 minutes business. Et c'est donc Sandra Gandoin qui nous rejoint. Bonjour Sandra.
Bonjour Cédric.
Votre sommaire de cette fin de semaine.
On va parler de cette rencontre cet après-midi à 16h entre Elisabeth Borne et Olaf Scholz, Front uni de l'Allemagne et de la France, face à l'Inflation Reduction Act américain qui subventionne massivement les entreprises aux États-Unis. On va en parler avec Thomas Asportas. On parlera aussi de l'état des GAFAM, les purges dans la tech, la production d'iPhone en Chine qui souffre de la politique zéro Covid, les mouvements sociaux chez Amazon. Les GAFAM sont en train de changer de cycle. On va en parler avec Jean-Marc et avec Anthony Morel. Et puis, en plein Black Friday, nous, on a choisi de parler plutôt de réparation des tablettes, des mobiles, avec une plateforme Revive qui sera avec nous. Vianney Bernard sera notre invité. Puis à 12h30, comme d'habitude, on répondra aux questions des auditeurs téléspectateurs. Cédric.
C'est à suivre dans une poignée de secondes. 60 minutes business, le marché lui a renversé la vapeur, il a fait un choix là aussi, mais il est dans le vert, plus 0,21, 6721 points. Et nous on se retrouve lundi matin à 10h. Très bon week-end.
C'était votre rendez-vous avec Échiquier Gestion Privée pour gérer et valoriser vos capitaux. Échiquier Gestion Privée, ensemble faisons grandir votre patrimoine.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.